J'enrage.
J'enrage, lilloise et féministe. J'enrage, c'est moi et peut-être vous.
J'enrage est votre radio féministe lilloise sur les ondes et dans vos cœurs un dimanche par mois de 14 à 15 heures.
Sur RCV 99 FM.
J'enrage.
J'enrage, s'engage.
J'enrage, le courage d'un intraveineuse.
J'enrage, galaxie féministe, vous invite dans son no man's land.
J'enrage, la claque du dimanche après.
Soyez là. J'enrage n'est pas sage. Elle est féministe.
Salut, salut, vous êtes bien avec J'enrage. Nous sommes le dimanche 3 juillet, donc il est 14h, oui, un petit peu dépassé aujourd'hui, donc nous ne sommes pas nombreuses. On est trois, il y a Lo, Anaïs, il y a Mathilde qui devait être là aussi, et puis elle a une urgence, voilà, donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a trouvé une technique pour ne pas qu'on s'ennuie les 15 dernières minutes de cette émission. Du coup, donc, au programme aujourd'hui, on va revenir sur le mot « meuf », son utilisation, les problèmes que ça peut poser, etc. Ensuite, on va revenir sur... c'est pas vraiment une émission thématique, mais on est plutôt autour du langage. Donc, on va revenir ensuite sur les préjugés qu'on peut trouver, qu'on peut entendre sur les filles, les gars, et comment ça peut être interprété, comment ça peut être pris par chacun. Et puis, donc, on terminera cette émission par un reportage qu'on vous fera écouter d'un peu plus d'une dizaine de minutes sur un court-métrage qui a été diffusé à l'Univers, je ne sais plus, vendredi, il y a 15 jours, je vais vous retrouver la date tout de suite. Donc on vous laissera découvrir ce court-métrage et donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet sur le mot meuf et son utilisation.
Ouais, salut tout le monde. Moi en fait j'ai voulu écrire cette chronique parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans ma vie et où à un moment je me suis retrouvée donc à une réunion une réunion professionnelle où voilà on a parlé des questions de sexisme etc et puis donc il y a avec un groupe assez large de personnes donc ils étaient une dizaine et puis je sais plus à un moment j'ai utilisé une fois le mot meuf et à la deuxième fois, oi aïe aïe, qu'est-ce que j'avais pas dit ? Globalement, j'ai 6 personnes qui me sont tombées dessus, oui ! Et donc, j'étais un peu surprise de tout ce que ça a posé comme problème, l'utilisation du terme meuf. Pour eux, c'était horrible, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait ? Donc, j'ai 6 personnes qui m'ont posé plein d'arguments autour de ce mot meuf. Et bon, moi, j'ai pas compris. Bref, ça s'est pas très bien terminé vu que je me suis un peu énervée. Eux aussi. Et là, tout le monde a fait « Bon, on va peut-être arrêter cette parenthèse. » J'étais « Ah oui, ça serait mieux. » Et donc, ça m'a posé plein de questions. J'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé aux copines. J'en ai parlé un peu, Et je me suis pas mal énervée. Et à un moment, je me suis dit « Bon, faut que je mette ça à plat. » Et puis, en plus, il y a plein de gens qui m'ont répondu des choses hyper intéressantes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite chronique. Donc, j'ai un peu recherché sur Internet. J'ai un peu regardé des trucs à droite et à gauche. Alors, sur Internet, j'ai trouvé sur un forum de discussion d'ados, meuf, un mot péjoratif. Et donc, un grand questionnement de quelques jeunes, surtout des garçons d'ailleurs, sur... Est-ce qu'on peut dire le mot meuf ou pas ? Donc, c'était assez intéressant et ça reflétait pas mal les arguments qui m'avaient été renvoyés.
Il faut que tu te rapproches du micro, excuse-moi.
Ah, pardon. Je me rapproche.
Super.
Toujours plus près. Donc, sur ce forum-là, on a pu voir, j'ai pu voir un peu des trucs, donc je vous partagerai ça. Et donc, le mot meuf, alors, je me suis dit que. pour pouvoir expliquer un peu tout, j'allais repartir des critiques des personnes sur pourquoi je devais pas du tout utiliser ce terme, cet ignoble terme tabou qu'est le mot meuf. Pardon. Donc on peut réfléchir ensemble. Donc il y a l'un des arguments qu'on m'a renvoyé, c'était que j'étais pas obligée, même si je travaillais avec des personnes qui pouvaient utiliser le terme meuf dans leur langage, de parler comme mon public, enfin comme les personnes avec qui je travaille plutôt, parce que c'est pas vraiment un public, et donc de pas utiliser ce terme meuf qui est jeune et populaire, je cite entre guillemets. Et que nous, adultes responsables, on n'a pas besoin de parler comme eux dans la vie. D'accord, merci. Heureusement qu'on veut construire des choses ensemble. Donc, dans cette remarque, pour moi, je voyais différentes choses. Donc, tout d'abord, l'idée, j'ai un peu déconstruit. Donc, je me suis dit, le langage de jeunes, donc le verlan. La première forme de verlan, en fait, on la retrouve dans le roman de Tristan et Isolde de Bérulle, à peu près donc au XIIe siècle, où à la place d'appeler Tristan, ils disent Tantris. Donc ça, c'est le premier effet de style un peu verlan. Et ensuite, on voit qu'au XVIe, XVIIe, on commence un peu à utiliser le verlan aussi, donc avec un gars qui s'appelait Antoine Furtière, qui, à travers les définitions d'un dictionnaire, disait que verjus, on pouvait utiliser aussi jus vert, que ça marchait, etc. Et puis, son utilisation, elle a été augmentée au moment de l'occupation, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, après 1945, c'est un peu l'explosion. Et ça a été popularisé avec des médiums comme la musique, le cinéma, etc. Et donc, à mon sens, on a vu un peu plus jeune comme mouvement de style que le verlan. Hein, voilà. Après, c'est vrai que c'est populaire. À la base, on disait que c'était utilisé, selon le dictionnaire, dans les années, la moitié du XXe, par les milieux ouvriers et immigrés parisiens. Et puis, d'un seul coup, ça se propage à travers tout le monde. Et en même temps, donc, on peut dire que certes, ce langage, il est populaire, il est marqueur, enfin, c'est un marqueur identitaire, qu'à la base, c'est utilisé par notamment ce que peut dire Anne-Caroline Fievé. Elle dit c'est utilisé par les Français contemporains des cités. Et puis, en même temps, elle dit « c'est utilisé par eux, mais en fait, c'est aussi les Français qui veulent paraître branchés, qui se réapproprient ces termes-là. Et donc, pas juste les classes populaires, mais aussi les classes aisées, les classes moyennes. En fait, tout le monde le fait. » Et elle analyse ça notamment à travers le langage, notamment des Français contemporains des cités et les radios comme Énergie, Skyrock, etc. Et elle fait un parallèle en montrant que tout le monde l'utilise un peu et que certes, ce ne sera pas le même verlan partout, mais qu'en gros, c'est assez répandu dans toute la population. Donc le terme populaire pour dire le verlan, aujourd'hui, c'est plus si vrai que ça. En tout cas, c'est cette forme de classisme que la personne a eue n'était pas si vrai, en fait. C'est un peu propagé plus loin. Et donc, et ça dit aussi qu'en fait, par exemple, les classes populaires n'utilisent plus ça. En tout cas, les jeunes contemporains des cités, ils n'utilisent plus le terme meuf, mais ils vont utiliser femeux, c'est-à-dire qu'ils vont encore verlantiser ou verlationner. Verlaniser, pardon.
Super. Verlationner, c'était pas mal non plus.
Donc voilà, les mots en verlan. Et donc, en gros, ce qu'ils font, c'est que ils mettent meuf en verlan encore, ça devient femeux. Donc en fait, on voit que il y a toujours aussi tout un truc qu'on voit clairement dans des mouvements, enfin aussi par rapport à d'autres populations qui sont stigmatisées opprimées dans notre société, c'est que les classes populaires, elles sont un peu pillées dans leur culture, que ce soit leur langage, mais aussi on voit dans leur mode de s'habiller, etc., par tout ce qui est culturalisé, mais qu'on leur reproche et qu'on les stigmatise encore et toujours à ce propos-là. Le verlan ne sort pas de ça, et il faut pas oublier que le verlan il continue donc à évoluer, comme on voyait avec l'idée que meuf c'est totalement has-been, en tout cas pour les Français contemporains des cités, et qui vont plutôt utiliser femeux. au-delà de cela, hein, voilà, vraiment pour faire un petit résumé de ces deux commentaires et ces deux critiques, donc il ne faut pas oublier que c'est totalement classiste, agiste, mais aussi raciste, parce qu'on peut le voir dans le forum en fait, de 2012, et là je sors mes petits papiers, où il y a une des personnes qui dit « Non, mais en fait, le problème du mot meuf, c'est que, je cite, « trop de gens l'ont employé à tort et à travers ». Et que finalement, je cite de nouveau, ça devient une insulte et une marque d'irrespect. D'où la personne donne comme exemple, quand on dit « Wesh, la meuf, elle est trop bonne, t'as vu ? Ah ouais ?» ça ne donne pas la même chose que « Bonjour, comment allez-vous ? Puis-je vous servir, meuf ?» Donc moi, ce qui me gêne dans cet exemple, globalement, c'est que déjà, la première phrase que je vous ai dite, en essayant de ne pas prendre une sorte de langage scandé comme on peut avoir dans les cités, que tout le monde imite à foison, avec plus ou moins de moquerie, et pareil, avec un mépris social et un mépris de classe.
Et ouais, ben, et un mépris et du racisme aussi. Parce que souvent, les jeunes des cités qu'on imite comme ça, c'est les rebeux, pour utiliser du verlan.
C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on voit clairement que ça transparaît dans tous ces exemples-là de comment, en fait, on va parler du verlan et comment on va le stigmatiser aussi. Cet exemple-là, il était très clair sur... voilà, ça mélange classisme, racisme, agisme. Moi, ça m'a fait me dire, quelque part, alors finalement... qu'une partie des hommes qui avaient ce type de prétention de dire ouais, faut être féministe, faut défendre les femmes, faut lutter contre le sexisme, finalement, ils faisaient toute leur lutte féministe se basait justement sur le classisme, l'agisme et le racisme, c'est-à-dire, moi je suis un homme blanc bourgeois et je suis très féministe et j'aime beaucoup les femmes, mais c'est pas moi le problème, c'est les autres, hein, parce que moi et mes potes, finalement, on est trop géniaux quand même dans tout ça. Donc voilà, donc c'est...
Ouais, puis c'est féministe, mais patriarcal quand même.
C'est ça, et totalement paternaliste. Et voilà. Pour en revenir aussi au fait que c'est un peu du mansplaining, du genre, moi le monsieur, je vais t'apprendre à être une bonne féministe, à toi qui n'as pas compris. Donc parce qu'on m'a dit aussi d'autres choses, parce qu'après on m'a dit, meuf quand même, c'est pas respectueux. Hein. Moi je l'utiliserai pas, c'est vraiment pas très gentil à dire. Et donc, avec la petite phrase, je cite quand même... Meuf, c'est femme à l'envers. Symboliquement, quand même, ça veut tout dire. Voilà, merci. Merci pour cette... Enfin, voilà. Je voulais dire merci à la personne qui a dit ça. C'est génial. Alors, on va revenir d'abord à la base. Meuf, ça veut dire femme, en fait, hein, juste à l'envers, hein, c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, à l'usage, ça serait l'équivalent de gars ou mec. À l'usage, je dis bien. Parce qu'en fait, l'inverse de meuf, ça serait comme... Mais c'est vrai que moi, j'avoue que je l'utilise pas tant que ça dans l'usage. Parce que moi, j'en ai un peu marre des autres mots qu'on propose aux filles pour se donner, aux filles et aux femmes, pour se donner un peu ce truc de, comme les mecs, ils peuvent dire « Ouais, on est entre mecs, on est entre gars, on est fort, on est nanana. » Parce que nous, on est entre nanas, on est entre nénettes, on est entre gonzesses, on est entre cocottes, on est entre poulettes, hein, super. Moi, ça me parle pas trop tout ça. Hein. Donc, c'est vrai que j'aurais pu utiliser le terme « femme ». Bon, en gros, d'une certaine manière, c'est quand même ça que j'ai dit. Hein. Ou bien fille. Et alors ça aussi, c'est intéressant le terme fille parce que, notamment dans les années 1920, on l'utilisait sans rien autour, juste le terme fille pour dire prostituée. Pour moi, c'est pas du tout un terme négatif, la prostitution, et tout. Je pense qu'on pourrait en faire une émission aussi, mais pour le coup, pour moi, c'est un terme positif. Je pense que pour les personnes, si elles avaient su que ça voulait dire ça, je pense qu'elles auraient un peu changé leur regard, pour le coup, parce que je pense que dans ces milieux, quand on croise classisme, racisme, agisme, je pense que la putophobie n'est pas loin. Et aussi, c'est pour montrer l'évolution du langage, c'est-à-dire que peut-être que pour certaines personnes, et à un certain moment, meuf, ça a peut-être pu être quelque chose de très négatif, mais qu'en fait on peut se ressaisir aussi des mots et que le langage il a le droit d'évoluer dans ses usages. Et femme à l'envers, tout un symbole. Comme mec à l'envers, tout un symbole aussi. c'était juste pour la petite précision, pour répondre aussi à cette sublime anecdote.
Parce que si la putophobie n'est pas loin, l'homophobie n'est pas loin non plus.
C'est ça.
Et donc, mec à l'envers, ça marche.
C'est ça, ça marche toujours. La dernière chose qu'on m'a dite, c'était du genre, si tu utilises le terme meuf, moi je pense que ça pose des questions sur votre lutte contre le sexisme, sur le fait que vous soyez féministe. Alors, je ne sais pas si utiliser fille, qui quand même est définie comme un être humain de sexe féminin de sa naissance jusqu'à son mariage, c'est quand même plus féministe. Voilà, merci. Et qu'ensuite, globalement, moi, je m'autodétermine comme meuf. Enfin, voilà, comme femme, comme meuf aussi. Hein, qu'en fait, c'est en tant que femme, je me permets de l'utiliser pour moi-même. Et que je pense que c'est aussi de l'empowerment. Parce que pour moi, si ça a pu être à un moment une insulte ou quelque chose de négatif, ce qui n'a pas été, à mon sens, pour moi, quelque chose dans ma vie que j'ai constaté, mais bon, on va le considérer ainsi, meuf comme une sorte d'insulte. Ben, dans ce cas-là, pour moi, il s'agit d'un retournement performatif de l'insulte. C'est-à-dire que l'insulte devient mienne et ça devient ma force. C'est un retournement du stigmate où ça pourrait être quelque chose par lequel on me pointe du doigt. Et en fait, non, ça devient aussi ma force. Et donc, je me saisis de ce qui pourrait me disqualifier comme un outil et comme une arme. Et il ne faut pas oublier que le langage, il est politique, que c'est une pratique située dans ses usages et aussi une forme de liberté. Et que donc, meuf, pour moi, c'est ma forme. Enfin, voilà, c'est mon mec à moi, j'allais dire, mais c'est mon mec pour moi, en tout cas. C'est la manière de me définir d'une manière positive et plein de force. Et que c'est aussi comme ça qu'on s'appelle entre copines et que ça a beaucoup de sens. Et donc, là, il y a une chanson d'une émission qui s'appelle Le Meufisme, qui est une chaîne YouTube, et où, en fait, en gros, voilà. Féminisme, meufisme, même combat. Et c'est une super chouette chanson de MC Daron.
Pop, pop. MC Daron déboule derrière le mic. Pop, pop. Chaud, chaud pour la fight. Pop, pop. Écoute, mon flow sera pas light. Écoute mon rap. Bébé, ce soir c'est pas ta night. Ça insulte, ça run. Rien que ça me chagrine. Ça se prend pour des bonhommes. Mais rien que ça, oui. Respecte ta daronne. Ou je te cuisine, je te mitin, je t'assaisonne. Je t'évide à la poutine. Si t'as trop prendre me traiter de pute, je te repasse la langue. Je te coule la bouche sur ton anus. Bon appétit, mon grand. Si tu trouves tes insultes au fond de ton calbar, j'irai droit au but comme tes traces de 40 bars. J'aurais mis de l'antigel dans mon lait maternel. Vous bercez à coups de pelle, à coups de trique, à coups de batte pour vous plomber la cervelle. Oh, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je vais foutre KO. Celui qui insulte sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère. J'ai grave les os, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je vais foutre KO. Celui qui insulte sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère. Si vos mères sont des putes, vos darons sont des schlags. Beaucoup trop de tarbas qui sortent de nos chats. J'ai pas foiré ma carrière pour enfanter des primates. Comprends que je sois vénère et que je balance dans les watts. Respecte ta daronne, c'est pas une bitch. Car à toi mon bonhomme ou je te refais les ratiches. J'ai peut-être pas de couilles mais une bonne paire de miches. Et si tu m'embrouilles, t'étonnes pas que je t'affiche. Mère poule, mère coule et même infirmière. Je te tords, je te soigne jamais ainsi. Mère, j'aurais pu t'avaler ou te faire passer par derrière. J'aurais mieux fait dire oui au délire chelou de ton père.
Maman est une catin, le bitume est ton berceau. Pas de bras, pas de chocolat, pas de cerveau, pas de Nintendo.
Vas-y traite la pute, je te coupe les grelots. Vas-y traite la pute, j'ai de la place au congélo. Oh j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je fous de KO. Celui qui a su sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère. J'ai grave les os, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je fous de KO. Celui qui a su sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère. Oh j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je fous de KO. Celui qui a su sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère. J'ai grave les os, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les uns. J'ai plus les idées claires, je fous de KO. Celui qui a su sa mère, MC Daron, tu m'as vénère, tu m'as fait vénère.
J'enrage, dérange, dessape, décape, le sexisme et l'hétéropatriarcat.
Voilà, voilà, on est de retour sur J'enrage, enfin sur RCV plutôt, avec J'enrage. J'ai perdu mon micro, pardon. donc voilà, sur une émission plutôt orientée sur le langage. Alors juste pour revenir sur ta chronique l'eau, c'était pour revenir sur l'utilisation d'un autre terme en verlan, donc le terme beurre, qui est déjà un verlan d'arabe et qui est aussi reverlanisé maintenant en rebeu, et que c'est le terme beurre entre arabe et rebeu qui est plutôt utilisé comme étant politiquement correct maintenant. On pense notamment à l'équipe Black Blanc Beurre d'équipe de France de la Coupe du Monde 98, ou alors voilà, la marche des beurres lancée par SOS Racisme, je crois, dans les années 90, et donc qui avait été repris aussi par Jamel Debbouze et par plusieurs rebeux, pour le coup. Et donc, en fait, rebeux ferait plutôt maintenant office de termes populaires et utilisés par les jeunes populaires, donc tout avec, avec tous ces relents de racisme et de classisme, alors que le terme beurre, parce que arabe, on ne peut plus le dire non plus, hein, on risque d'être taxé de raciste. Donc voilà, le terme beurre, c'est plutôt un terme politiquement correct qui est déjà, qui est déjà du verlan, en fait. Donc c'est...
Oui, et puis c'est légitimé par les dominants, en fait. Et c'est ça, ouais. Le problème, c'est que c'est le dominant qui va choisir quel langage on a le droit d'avoir, quel mot on a le droit de prononcer et dans quel contexte. Et qu'à un moment, en fait, il faut toujours se remettre à l'ordre quand on est proche du dominant, c'est-à-dire quand on a une réunion de travail, surtout. Surtout, ne pas prononcer les mots qu'il ne faut pas ou les mots qui sont dits par les publics, etc. Et, enfin, les publics, les personnes avec qui on travaille, il faut que j'arrête de dire public, c'est très mal de dire public, il faut savoir. Enfin, en tout cas, quand on fait de l'éducation populaire.
Mais c'est bien, c'est pas grave, parce que comme tu t'es repris, c'est bon, ça passe.
C'est bon. Ben non, mais c'est vrai que... Mais en fait, c'est ça aussi qui me gêne, c'est-à-dire que, enfin, pour le coup, nous, on est dans des démarches d'éducation populaire, en tout cas, moi, dans comment je travaille, et que, clairement... En fait, on dit on veut faire de la co-construction avec les personnes, on veut travailler avec les gens, nanana. Et en fait, à aucun moment, on va les laisser prononcer les mots qu'ils ont envie de prononcer. On ne va jamais utiliser leur langage. On va les discriminer en fait, à foison et les disqualifier à foison. Et voilà, et rebeu, meuf, etc. C'est aussi, enfin, femeux ou autre, c'est des mots qu'on va disqualifier. Mais... Et puis, c'est comme ça qu'on fait taire les gens. Hein.
Oui, parce que l'éducation populaire, c'est l'éducation des publics jeunes sans qu'ils puissent avoir le droit de co-construire cette éducation.
Bah non, parce que c'est nous qu'on sait mieux ce qu'ils veulent dire.
Bah oui.
Parce que c'est que nous, on doit leur dire tout ce qui est bien et tout ce qui n'est pas bien parce qu'ils n'ont pas compris.
Bah oui, évidemment.
Bah, voilà.
Sur ces bonnes paroles, en plus, ça peut rejoindre ces questions de préjugés, etc. On va revenir donc sur les termes préjugés et stéréotypés qu'on peut entendre sur les meufs, mais aussi sur les cums.
Donc, alors, je vais vous parler de tous les mots qui sont posés sur mon physique au quotidien et sur les mots qui sont aussi posés sur le physique des autres personnes que je croise. Alors, dans la famille. Ouais, mais moi, je suis trop grande, je peux pas porter talons parce que sinon, je serais trop grande que mon copain. Ok, d'accord. J'ai une tante qui me dit « Ah bah c'est bien, t'as bien grossi Anaïs, dis donc, ça te va bien. » D'accord, merci, c'est peut-être un compliment. Mon copain. Ouais, mais moi, sur Tinder, eh ben, les nanas, elles me recalaient direct parce que je suis plus petit que 1m70. Donc ça veut dire que je suis trop petit pour un mec. Mais non, moi je te trouve bien comme t'es. Dans la rue. Et mademoiselle, c'est combien pour la passe? Sale chienne, tu veux du thon la bête? Hein? Bon, là je vous dis clairement, je cours. Ensuite, dans le métro. Mademoiselle, vous êtes belle, souriez. Oh, mais c'est gentil ce qu'il me dit le monsieur quand même là, non? C'est gentil, mais pourquoi je le prends pas si bien que ça? Pourquoi je souris pas? Mais non, je souris pas, c'est pas parce que je suis belle que j'ai envie de sourire. Mais non, mais pourquoi ils me disent ce que j'ai à faire? Mince alors. Ensuite. Sur mon fil d'actualité Facebook. Ouais, mais moi, j'en ai marre des féministes, des féminazies, comme on dit là. Elles extrapolent tout. Tout le monde est sujet au harcèlement de rue. C'est bon, j'en ai marre. C'est bon, faut arrêter. Bah oui, mais aussi, j'ai envie de dire, il y a quand même d'autres personnes qui sont un peu plus sujettes au harcèlement de rue que certaines personnes, non? Ouais, mais en même temps, toi, tu portes des mini-jupes, des mini-shorts, ça s'appelle de la provocation. De la provocation. Provocation. Donc ça veut dire que moi, quand je porte des mini-shorts, j'ai la conviction de provoquer les gens. C'est ça? Donc je le cherche, en fait. D'accord, c'est noté. Je le cherche. Ensuite, en soirée. Ouais, mais toi, t'es pas très douce pour une femme, hein. Mais c'est bien, je vois que tu fais des efforts, mais t'es pas très douce, t'es assez rentre-dedans quand même. Donc d'accord. Donc je suis pas assez douce pour une femme. Je suis pas assez douce pour une femme. Non, 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 non. Non. Faut pas que j'y tienne. Franchement, faut pas que j'en tienne compte. Non, non, non. Je fais comme je veux. Mais je suis pas assez douce comme une femme. Bon, enfin. Ah, mais c'est trop cool, toi, en fait. T'es belle, t'es mince, t'as des belles fesses, t'as un beau visage. Franchement, tu dois faire trop craquer tous les mecs autour de toi. Hein. Ouais, mais tu sais que t'es belle, hein. Franchement, tu sais que t'es belle, non? Bon, d'accord. Merci, ça doit être un compliment. Ouais, c'est un compliment, ça. Ça, c'est un compliment. D'accord, c'est cool. Ah ouais, mais toi, tu pues grave le sexe, hein. T'es trop sexy, hein. Ouais, c'est un compliment. C'est un compliment. Au travail. Et Anaïs, et Anaïs, t'aimes bien les anulingus? Bah, je sais pas, reçu ou administré? Oh mince, j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça. En fait, il était gentil, il voulait juste plaisanter. Oh non, j'arrête, faut que j'arrête. Et Anaïs, aujourd'hui, ton gage, eh ben, c'est de manger une banane sans les mains, avec une autre nana. Ça te dérange pas si on filme? Bah écoute, moi je suis pas trop chaude, mais bon, bah ouais, pourquoi pas. Mais allez, attends Anaïs, ça tombe là, t'es juste rabat-joie, il va juste rigoler, c'est juste un gage, il y en a plein qui ont fait plein d'autres gages, c'est tout. Donc alors, moi, à force de me prendre pas mal de réflexions comme ça sur mon physique, je me pose des questions. Est-ce que je suis quelqu'un de sceptique, ou est-ce que je suis juste pas sympa, ou est-ce que je mélange tous les termes qu'on fait par rapport à mon physique? Est-ce que parfois je prends certaines choses mal alors que je devrais les prendre bien, ou est-ce que je prends certaines choses bien alors que je devrais les prendre mal? Et tout ça, en fait, c'est pour dire qu'en final, je suis perdue. Je sais pas trop quoi en penser. Et c'est la question que je me pose actuellement sur ma vie, au quotidien.
C'est tout un programme, cette question.
Voilà.
Merci.
Merci, Anaïs. Moi, c'est vrai que ça... Non, je trouve ça cool. Enfin, c'est vrai que c'est le genre de remarque, en fait, compilée comme ça. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a toujours un commentaire qui est fait sur le physique des femmes, quoi. Enfin, en gros, c'est toujours le truc de, ben, voilà, tout ce que tu fais, c'est, enfin, voilà, c'est fait pour être contrôlé, mesuré, notifié. Et puis, en plus, c'est toujours, en tout cas, l'idée que c'est toujours dirigé vers les autres. Et en tout cas, enfin, j'ai l'impression juste que une meuf, elle peut pas décider pour elle-même, quoi. Ton mini-short, c'est pour provoquer, c'est pour les autres, c'est pas pour toi.
Et surtout, c'est omniprésent, en fait. Enfin, au final, on sait plus trop quoi en penser. Enfin, c'est vrai que vraiment, il y a vraiment de quoi se perdre, en fait. Enfin, même des compliments basiques, on sait plus si au final, est-ce que je dois bien le prendre, ou est-ce que, enfin, ouais.
Bah, ça dépend des compliments basiques, ouais, mais. Voilà. Mais c'est toujours dans le même sens aussi. Tu te permettrais pas forcément d'interpeller un mec dans le métro ou dans la rue si tu le trouves canon. Tu te permettrais pas de le faire. Alors que le mec qui soit en costard cravate, en jogging capuche, pour rester bien dans les stéréotypes et les préjugés. Enfin, c'est lui, il va se permettre de le faire. Et il va le présenter comme étant un compliment, alors que bah tu le connais pas. Enfin, et puis c'est tout le temps, et puis c'est pas toujours bien dit, et puis du coup t'as peut-être pas envie de le recevoir à ce moment-là, et du coup même si juste c'est censé être gentil, enfin je sais pas si c'était ta grand-mère qui t'avait dit en te tirant les joues que t'étais super jolie aujourd'hui, peut-être que tu l'aurais bien pris, mais que le gars que tu croises dans la rue avec son attaché-case qui te le dit à peu près de la même manière, et ben non, c'est paternaliste et ça te dérange ce jour-là parce que tu t'en fous de son avis, en fait.
Bah, c'est ça, c'est en fait l'idée que, en gros, tout le monde peut se permettre, parce que t'es une meuf, de venir d'intervenir sur ce à quoi tu ressembles. Sur ce à quoi tu ressembles, sur tes pratiques, sur ce que t'aimes, sur tout ça. Et tout le monde est en train de te qualifier à chaque fois et d'essayer de te mettre dans une petite case, quoi. Genre, ah oui, elle est comme ça. Ah, mais alors, je la trouve comme ça, mais est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle en a conscience? Parce que dans ce cas-là, ça pourrait faire d'elle une fille qui sait qu'elle est jolie, donc c'est pas la même chose qu'une fille qui sait pas qu'elle est jolie. Et puis en même temps, ça pourrait peut-être qu'elle a telle pratique, donc finalement, ça la rendrait peut-être moins jolie si elle faisait ci, elle faisait là. Et puis en plus, on va la rendre très objet sexuel, parce que tout ce qu'elle va faire, on va le sexualiser, quoi. Et ça, enfin, moi, j'avoue que c'est fatigant, quoi.
C'est vrai.
C'est ça, c'est que tout le monde se permet d'avoir un avis. Enfin, oraliser, divulguer. Alors que, bah non, enfin, c'est les personnes proches de toi qui peuvent donner, à qui tu donnes le pouvoir. En plus, c'est toi qui donnes le pouvoir de donner ton avis sur toi-même. Et tu le donnes pas à l'inconnu que tu croises dans la rue. C'est pas parce que t'es une meuf que, de fait et de manière implicite, tu leur donnes le pouvoir de pouvoir donner leur avis sur comment ils te trouvent. Bah non, tu t'en branles. Enfin, t'as pas envie de le savoir. Tu la demandes à ton mec le matin avant de partir. Tu demandes à ta copine de bureau en arrivant si ta jupe elle te va bien ou si ta robe elle est pas trop courte. Mais pas à ton patron, quoi. Enfin.
Ouais. Et puis, enfin, tu voulais dire un truc.
Bah ouais, vas-y. Mais je disais aussi que le fait qu'on soit constamment dedans, en fait, on n'a pas forcément un regard extérieur. Donc là, par exemple, là, j'ai un regard extérieur grâce à vous. Donc du coup, je vous ai posé la question et tout. Enfin, je vous ai fait mon petit speech. Mais avant d'être ici, j'avais pas conscience de tout ça. Et donc du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on n'arrive pas forcément à faire la part des choses. Donc entre toutes les remarques qui sont faites, au final, tu pètes juste un câble. Tu sais plus faire la part des choses. Et toutes les remarques qui sont faites sur ton physique, au final, t'as juste envie de les balancer et de dire j'en ai rien à faire.
Ouais, et en plus, c'est, enfin voilà, quand tu dis, bah en fait, j'en ai rien à foutre, en plus, on n'est pas très sympa avec toi, quoi. C'est ça, c'est en fait, tu devrais toujours dire merci et sourire parce que les filles, ça doit sourire.
Voilà,
parce qu'une fille qui tire la gueule, franchement, c'est pas joli, hein, c'est pas attirant. Parce que moi, l'objectif de ma vie, c'est d'être jolie et attirante. C'est vrai, j'avais oublié, pardon, excusez-moi. C'est comme, voilà, tout ce que je vais faire toute ma vie, genre, il y a des magazines, j'ai des potes qui regardaient, elles ont acheté un magazine qui était un mensuel et en fait, un truc santé. Et tous les mois, le mensuel proposait un régime. Alors, un régime différent, mais tous les mois, voilà. Donc, quand t'es une meuf et que tu te préoccupes de ta santé, en fait, tu te préoccupes de faire tous les mois un régime pour être mince. Et puis, après, tous ces régimes pour aller à la plage aussi, qui sont uniquement dirigés vers les femmes, alors que globalement, pour avoir... J'ai vu un truc trop bien sur Internet, le truc du corps parfait sur la plage. Pour avoir un corps parfait pour aller à la plage, il faut avoir un corps et aller à la plage. Je pense que c'est tout ce qui est nécessaire.
Ouais.
Et juste dernier petit truc par rapport à ce truc de commenter le physique des filles et des garçons, je me permets juste d'insister sur le fait que ce soit vraiment dirigé vers les filles. C'est que, en gros, à la naissance, déjà, on voit que les termes associés aux petites filles et aux petits garçons ne sont pas les mêmes et qu'on va toujours insister pour les petites filles sur leur physique, comme quoi elles sont mignonnes, elles sont jolies, elles ont de beaux cheveux, oh, ah là là, les mains sous nettes, oh là là, nanana. Et sur un petit garçon, c'est oh là là, qu'est-ce qu'il est dynamique, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est actif, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est là. Et honnêtement, c'est dès la prime enfance qu'on nous apprend à ça, sois belle, souris et tais-toi. Et voilà.
Trop bonne, trop conne.
Ouais.
Mais justement, sur ces questions de corps à la plage, ça me faisait rire aussi parce que je sais plus quand je cherchais un maillot de bain, mais relativement pratique parce que je travaille en colo et donc je vais partir à la mer avec des enfants et je voulais un shorty. Parce que, question d'épilation, hein, très concrètement, et on n'en trouve pas. C'est, enfin, j'ai pas fait tous les magasins, j'ai cherché rapidement, mais en tout cas, j'ai fait bien 3-4 magasins dans les rues piétonnes de Lille, tu vois, par exemple. Alors, enfin, franchement, après, voilà, j'ai pas cherché très loin, et n'empêche que t'en trouves pas. Enfin, c'est que des trucs où tu dois être bien épilé, quoi.
Sauf si tu vas vers des trucs de sport, peut-être un peu plus.
Ouais, alors j'ai pas regardé dans les trucs de sport, il faudrait que je regarde parce que j'en ai déjà un, mais en fait, souvent dans les trucs de sport aussi, c'est des maillots de bain de piscine. Et en fait, moi je vais me baigner dans la mer avec les enfants et le sel attaque les maillots de bain de piscine. Et donc ils sont abîmés plus vite, c'est pas tout à fait les mêmes matériaux utilisés.
Waouh.
Et donc en fait, j'ai pas forcément non plus envie de me racheter un maillot de bain tous les ans. Et les maillots de bain que j'ai de plage, c'est les trucs de vacances qui sont super chiants et qui en plus, bah moi me vont plus. Enfin, j'ai plus envie de les porter, quoi. Et donc si tu cherches un shorty, et ben t'as intérêt à faire tous les magasins de sous-vêtements et de maillots de bain qui existent pour essayer d'en choper un.
Super.
Voilà. Non, c'est pas mal. Enfin, c'est encore des dictates. Enfin.
Totalement.
Implicites, mais quand même des dictates, quoi.
Carrément.
Une petite pause musicale ou vous avez des choses à rajouter encore?
Je suis super contente pour la pause musicale.
Moi, juste peut-être un truc sur au-delà même, enfin, je pensais au shorty, on parle de l'épilation, mais il y a aussi tout le truc de décor, l'injonction aussi, au-delà de t'es jolie, t'es pas jolie, de tout le vocable qu'il peut y avoir autour, c'est aussi sur l'idée de quand ton corps il rentre pas dans la norme, en fait, et où. Au-delà de même te dire des compliments dans la rue, enfin moi je pense genre le dernier truc que je me suis pris dans la rue c'est oh grosse, Et pas un wa grosse du genre et meuf machin, mais plus. Enfin, non, c'est wa, qu'est-ce qu'elle a la grosse, c'était ça. Et donc, moi, j'étais tranquillou sur mon vélo et tout, moi, chez moi, je demandais pas grand-chose. Hein. Mais voilà, et j'ai un peu halluciné, ça m'a un peu pété 10 minutes de ma journée, j'étais là, oh, ça va pas. Alors qu'en fait, bon, d'une part, c'est juste de la. Enfin, voilà, c'est juste déjà obscène qu'il le fasse, parce que globalement, je lui ai pas demandé son avis, d'une part. D'autre part, c'est aussi juste symptomatique de la grossophobie ambiance de notre société, où ça reste quand même l'un des premiers facteurs de discrimination. Et puis que... Enfin, que merde, purée, mais en fait, mon corps, je l'aime comme il est, en fait. J'ai pas envie de le changer juste pour je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas comment, et que j'aimerais bien qu'on me foute la paix, en fait. Et...
Ouais, c'est ça, c'est le rapport à soi-même qui est complètement nié, en fait. Mais... Après, ça, pour tout le monde, je pense que pour les mecs, c'est la même chose. Ça ouais. se traduit pas de la même façon. Et puis, ils expriment pas... la discrimination s'exprime pas de la même façon. Et eux le vivent pas de la même façon, ne l'expriment pas de la même façon, parce qu'ils sont pas éduqués de la même façon non plus. Mais c'est pour tout le monde pareil. Et que le rapport... son rapport propre à son corps, il est nié pour tout le monde. Et ça, d'abord dans une logique marketing, déjà, enfin, capitaliste. Et ensuite... qui se décline sur dans d'autres sphères, mais qui est complètement nié. Et en t'entendant dire ça, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié, donc c'est dommage, mais tant pis. Non, c'est pas grave.
Bah, en tout cas, mais je trouve que c'est intéressant le lien que tu fais en disant tout ça c'est lié au capitalisme en fait, et qu'à un moment tout ce qui se passe est aussi lié pour qu'on s'astreigne dans nos corps et qu'on consomme encore plus de régimes, de trucs sexy parce que notre objectif, ça va être d'être hyper bonne, de maquillage, de machin, de ci, de là. Et qu'à un moment, en fait, tout ce qui va être liberté dans nos corps, on peut se le foutre.
Mais même, on retrouve ça aussi dans la sexualité. Hein. Enfin, clairement, au plus profond de l'intimité, on arrive encore à retrouver ces codes-là. Enfin, vraiment, on est toujours sous pression.
De toute façon, la sexualité, elle est tout sauf privée. Hein. On va pas se mentir, elle est tout sauf privée.
Oui, c'est politique, quoi.
Ah bah, clairement. Et c'est puis... politique, c'est marketing aussi, maintenant. Enfin, c'est... Elle a jamais été privée, en plus, la sexualité. Si...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, c'est que tout le monde en parle, tout le monde la cadre, la norme. Mmh. Et
du coup, tout ça, ça se reflète à travers ton activité sexuelle, que tu le veuilles ou non, ça influence. Même si t'en es conscient, même si tu le dis, ça va quand même influencer.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça fait deux fois que je te coupe la parole, je crois.
Non, ça va, c'est cool, j'allais pas parler.
C'est juste sur ce que tu disais, sur la grossophobie ambiante aussi, ou le fait que même si là on en parle de manière détendue et déconstruite aussi, bah, c'est aussi tout un travail justement de déconstruction, de pouvoir dire qu'on n'a pas envie que tout le monde donne notre avis dessus, et qu'il y a forcément, enfin, ça arrive, et ça arrive tout le temps, que bah, ça nous touche, quoi. Et parce que justement on a grandi là-dedans, on a été élevé là-dedans, et qu'on a beau le déconstruire au quotidien, il y a un moment où c'est fatigant et où on n'a pas envie de se battre tout le temps, 24-24, 7 sur 7, pour affirmer ce qu'on est, qu'on aime comme on est, et qu'on s'en fout de comment les autres pensent à notre place. Enfin...
Ouais, ce qu'ils pensent de nous, en fait. Enfin, je trouve que le truc de dire « mon corps m'appartient », en fait, encore aujourd'hui, c'est compliqué, alors que, enfin voilà... ça date et qu'on nous dit « Ah, vous avez tous vos droits, le féminisme, totalement has-been. » Ouais, ben, sérieux, franchement, prends ma vie, hein, vas-y.
Essaye. Bon, alors, sur ces bonnes paroles, on va faire une petite pause musicale. On reviendra ensuite donc, avec le reportage dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'introduirai rapidement avant de le passer. Donc, on s'écoute « Girls » de Béatrice Ellie.
J'enrage, dérange, dessape, décape, le sexisme.
I've been listening to your breathing, I've been trying to count sheep, yeah, I've been staring at the ceiling for so long, hoping you would come. Thinking of my teacher, yeah, my sixth grade teacher, with her long dark hair, it always works, getting me aroused.
pictures in my head of my head between the legs. I see girls in my building, I see girls on the train. I see pictures in my head, I can't make them. TV, see this girl in the mall. I see pictures in my head, of my head between her legs. I've got the girls on my mind all the time. I've got the girls on my mind all the time. I've seen this girl on the TV.
J'enrage le courage en intraveineuse.
Vous êtes toujours sur RCV 99 FM. Vous êtes toujours avec J'enrage. J'ai bugué parce que Lou, elle m'a fait un signe et j'ai pas compris.
C'est un signe de dire je sais pas.
Ah, d'accord.
Alors,
qu'est-ce qu'on fait? On discutait en off, on a plusieurs solutions. Soit on passe Hétérox, on a encore un peu le temps. Il reste 15 minutes pour qu'on puisse se dire au revoir correctement. Ou alors on parle d'autre chose. Hétérox?
Ouais, moi je pense que c'est le mieux.
Ouais, moi, ça me dit bien.
Alors, Hétérox. Hétérox, en fait, c'est un... Je vais raconter un peu ma vie rapidement, mais c'est un reportage que j'ai fait donc la semaine dernière. Donc c'est le titre, Hétérox 500 mg, c'est le titre d'un court-métrage qui est passé à l'Univers. J'avais dit que je chercherais la date et en fait je ne l'ai pas cherché. bon, qui est passé il y a 15 jours à l'Univers. C'était la quatrième projection, de toute façon c'est dit dans le reportage. Je ne vais pas vous spoiler le synopsis, mais donc voilà, donc j'ai rencontré trois membres de l'équipe du film qui m'ont parlé un peu de l'origine de ce court-métrage et puis de leur travail commun depuis presque 10 ans maintenant. C'était une très très belle rencontre. Je ne sais pas s'ils écoutent cette émission et je leur ai déjà dit, mais ils pourront le réentendre éventuellement. C'était une très très belle rencontre pour ma part. Ils étaient des très bons clients au micro parce que je n'avais pas besoin de poser des questions. Ils se renvoyaient la balle tout seuls, donc ils faisaient mon travail à ma place. C'était absolument nickel. Et voilà, donc j'en ai fait un reportage pour d'autres radios parce que je suis en stage, mais qu'on va vous passer dans cette émission parce que ça colle à l'esprit de J'enrage. Voilà, à tout de suite.
Après 26 ans de travail, les laboratoires Serville sont enfin arrivés à trouver la solution. Hétérox 500 mg, votre érection dans la bonne direction.
Diffusé pour la première fois en mars 2015 au cinéma L'Univers à Lille, Hétérox a conquis, au terme de 2 séances de projection consécutives, un public survolté d'environ 200 personnes. Ce court-métrage d'une 20aine de minutes est le résultat d'un travail de longue haleine et de la collaboration de longue date d'une bande d'amis, emmenée par Maxime Pourbet, réalisateur, Marianne Berthaud, co-autrice et actrice, et Mathieu Gédrazac, acteur et chanteur hors caméra. Nous avons eu la chance et le plaisir de les rencontrer lors de la quatrième projection d'Hétérox, toujours à l'Univers, pour nous parler de l'origine de ce film.
Voilà, en 2013, il y a eu la loi du mariage pour tous. Et on a entendu tellement de conneries. On avait tellement envie de répondre, de dire « Écoutez les gars, foutez-nous la paix, allez vous faire foutre. » Du coup, on a mélangé plusieurs situations personnelles. On a créé ce personnage flamboyant de Samantha Stevens, une mère aimante mais castratrice et surtout très ingérante dans la vie de son enfant.
En fait, c'est un échange qu'on a depuis 10 ans avec Mathieu, Maxime, moi et d'autres amis sur les thématiques de la famille. Alors au départ, c'est sur l'esprit de Noël en fait, parce qu'on avait des problèmes avec les fêtes de Noël, avec nos familles respectives et toutes les problématiques que ça soulevait dans la famille en fait, sur les liens qu'on avait entre nous, entre l'amour et en fait des discordes sur la façon de vivre, ce qu'on pensait, ce qu'on vivait personnellement. Et parfois, alors j'ai plus parlé pour moi sur mon incapacité à leur témoigner de ce que je vivais et réussir à leur témoigner mon amour. Je pouvais aimer des gens avec lesquels j'étais pas d'accord et qui étaient les gens les plus proches de moi, en fait, finalement. Et donc, je savais que je pouvais appeler Mathieu et Maxime et leur dire, bon, qu'est-ce que vous faites? Et en général, ils me disaient, soit c'était moi qui disais, soit c'était eux qui disaient, bon, bah, on fait un film. Oui, on fait un film. Et on improvisait un truc un peu pourri. On était super fatigués. Finalement, Maxime a réussi à en tirer le meilleur. Et puis, de film en film, en fait, on a fait plusieurs films de Noël, comme ça, en fin d'année. Il y a des problématiques qui sont revenues, qui étaient récurrentes. Et on s'est dit, ah, mais tiens, on pourrait faire un scénario plus abouti. Bon, après, il m'arrivait un truc dans ma vie familiale. Ma mère a donné l'objet du film, exactement. En fait, ma mère a cru que les neuroleptiques pouvaient rendre hétérosexuels les gens qui étaient homosexuels, dans le cadre de démence, en fait. Et j'ai rappelé Maxime en lui disant, écoute, tu vas pas me croire, ma mère pense que les neuroleptiques rendent hétéro. Donc, au lieu de pleurer, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et là, on s'est dit, ah mais oui, un médicament qui rendrait hétéro, ça faisait tellement d'années qu'on était sur ces thématiques. Et on s'est dit, mais hétérox, évidemment.
Moi, ce qui était important, surtout, c'était de tourner avec les gens que j'aimais, les gens que j'admirais. J'ai du mal à écrire un rôle sans savoir qui va le jouer à l'avance. Le désir, c'est de voir un acteur faire quelque chose. Par exemple, avec Mathieu Gédrasac, qui joue Samantha Stevens, ça a toujours été clair que ce serait lui qui jouerait le rôle. Peu importe ce qu'en pensent les commissions de financement, parce que je sais que c'est lui la meilleure actrice pour jouer ce rôle.
Ce qui nous a beaucoup liés, je crois, c'était les 48 heures du court-métrage, avec notamment le truc Pelouse Interdite, où un truc qui passait bien entre Maxime, entre, pour moi, proposer des choses en impro, et lui, après, le laisser faire sur ce qu'il sélectionnait ou pas, mais en même temps, on avait discuté en amont quand même sur ce que moi je donnais, sur ce que je pensais, quoi, voilà. La fois où ça s'est peut-être le moins bien passé, c'était un truc du court-métrage où on avait fait les filles d'à côté, donc c'était vraiment pris la tête. Mais depuis ce jour-là, il y a eu un basculement dans notre collaboration. Vraiment, c'est une collaboration très belle parce qu'elle est simple dans le fond, et c'est quelqu'un que j'aime profondément, mais en même temps, elle est aussi forte de confrontation, de recherche, de contradiction, d'une volonté forte, avec des non-compromis, on n'a pas non plus les mêmes points de vue forcément tout le temps, une confrontation, j'ai l'impression qu'on se fait avancer, on travaille ensemble, et voilà, jusqu'au jour où il m'a proposé Hétérox, où j'ai dit oui, et je vais être franc avec vous, au début, je me dis, il faut encore me mettre en meuf, et puis je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire dire avec un hétéro sur les hétéros, je me dis, oh là là... Et en fait, c'était super parce qu'il s'est demandé des super moyens. C'est un des meilleurs moments de l'année dernière pour moi. Et j'ai trouvé le résultat. J'étais très surpris, en fait, de ce que ça a donné. Enfin, je sais pas, ça m'a fait réfléchir d'une manière différente à plein de choses, en fait. J'étais très content.
Comment ça se tourne, un court-métrage comme ça, et comment ça se finance?
Alors, comment ça se finance? Mal, déjà. Difficilement. Nous avons reçu une aide depuis Pictanovo. Voilà. Nous avons réalisé un crowdfunding qui nous a permis de rajouter quelques milliers d'euros au-dessus. Et après, ma sueur, le fruit de mon travail, le fruit du travail de tout le monde, évidemment, parce que personne n'est payé, je le rappelle, sur ce tournage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on finance un court-métrage. Et évidemment, ça demande d'en chier énormément. Oui. Je rappelle d'ailleurs à nos chers auditeurs qu'ils peuvent acheter des DVD parce que justement, il manque encore quelques centaines d'euros pour finir de boucler ce budget.
Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en fait, une fois qu'on a eu cette subvention, il y a des techniciens donc, qui ont appris qu'on cherchait des gens pour nous aider à filmer, et ces gens sont venus gratuitement 4 jours, des vrais pros en fait, pour assister une équipe qui était quand même plutôt amateur pour l'instant, semi-professionnelle je dirais. Ils ont été hyper bienveillants avec nous, hyper disponibles pendant 4 jours à des horaires vraiment indécents. Et pour un résultat qui nous a scotché, quoi. Parce que nous, on tournait vraiment à la petite caméra pour l'instant, humilité, quoi.
En toute humilité, mais avec des résultats. Lors de la deuxième année du marathon du court-métrage, événement organisé par l'association L'Orange Verte, c'est Marianne Berthaud qui a gagné avec un film qu'elle avait réalisé seule pour la première fois. Devenu un faux battle récurrent entre Maxime et elle à chaque nouvelle édition du marathon, Maxime a également fini par l'emporter, 7 ans après le prix de Marianne, sur le thème 7 ans et 1 minute, ce qui a bien fait rire l'équipe. Pour en revenir à Hétérox, Mathieu Gédrazac revient sur le ton donné au film qu'il estime manquant au paysage cinématographique, et Marianne expose le style dans lequel l'équipe inscrit ses créations.
Pourquoi monter ce genre de film ? C'est parce qu'aussi, moi, tout simplement, parce que je crois qu'on ne le voit pas non plus. Quand des thèmes sortent sur le genre, sous l'homosexualité, c'est très forcément stigmatisé, marginalisé, ou alors... Enfin, moi, je vois souvent des histoires très tristes, en fait, finalement. Alors, j'ai pas dit que c'était forcément joyeux hétérox, mais avec un certain ton, enfin, je sais pas, pathétique, comme un peu la chanson d'Aznavour, comme ils disent. Enfin, bon.
On se réclame un petit peu d'un style. On a essayé de nommer ce qu'on faisait et on se disait que c'était à la fois sublime et minable. En fait, on trouve que dans le minable, il y a vraiment quelque chose de très touchant, un diamant, quoi. Et on s'est dit que ça pouvait être du subliminable, à la fois touchant et pathétique, à la fois une solitude. Enfin, c'est vraiment ce truc de la solitude, à quel moment la solitude fait pitié et à quel moment, au-delà de la pitié, il y a un truc qui touche le cœur de chacun si on laisse tomber, plein de choses et qu'on dit, bah oui, effectivement, le soir, que je sois seule ou accompagnée, bah, je suis seule, en fait. Et c'est dur, putain. C'est super dur.
Vous êtes artiste de formation, ou c'est un passe-temps qui est devenu un métier ou une profession ou...
Alors moi, c'est encore un problème, en fait, dans ma vie, puisque je suis enseignante. Je ne sais pas comment dealer avec ça. Donc, il y a eu une période où j'ai eu un peu une double vie, entre guillemets. Donc, j'enseignais la journée et le soir, je faisais beaucoup de répétitions de musique, de théâtre et un peu de montage vidéo. Et il y a un moment où j'ai voulu me consacrer vraiment complètement à mon métier d'enseignante. Mais j'ai senti que je mourais, en fait, intérieurement. J'ai décidé de passer à mi-temps, en fait, simplement. Et de, donc là, ce sera l'année prochaine. Et de me reconsacrer à ça. Sauf que c'est vrai que moi, je vois le travail artistique comme un accompagnement à ma vie. Enfin, je sais pas comment qualifier. En fait, pour moi, c'est une nécessité, en fait, vraiment. Genre, quand je vais très, très mal, ben, juste s'il y a un piano, une traversière, une caméra, un pauvre logiciel de montage, une feuille, un stylo, ben, ça me sort de la merde, en fait.
Oui, oui, je suis artiste. Je travaille pour la scène artistique. C'est comme ça que c'est nommé et dénommé, on va dire, d'une certaine manière. Après, oui, oui, j'ai fait des études pour ça, notamment du chant lyrique, que je continue encore. Oui, moi, je suis intermittent, c'est mon travail. Enfin, ça l'est devenu, parce que ça l'a pas toujours été. Et c'est... Non, artiste, il y a, pour moi, ça connote plus à l'artisanat. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fabriques toi-même. Et je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche d'un potier ou de quelqu'un qui a un atelier chez lui que de ce que moi, j'avais comme vision de l'artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui brille. Mais pour moi, c'est plutôt comme ça que j'envisage. Ce que j'entends, en tout cas, dans ce que Marianne dit, dans ce que moi, je vis, c'est que c'est quelque chose qui se cherche constamment dans une définition, une redéfinition de notre vie, de ce qu'on a envie d'en faire. Et que ce parcours, en effet, permet de voir ça beaucoup plus fort et beaucoup plus clairement, parce qu'en effet, d'un postulat très clair, on se positionne pas dans le cadre d'un métier admis, si vous voulez. J'ai l'impression qu'en effet, ce qu'on fait, il faut juste le faire, et après, pas avoir un avis professionnel ou amateur, juste le faire avec tout son cœur, son plaisir. Je crois que la notion de plaisir est très importante. Alors, pas un plaisir auto-narcissique, mais un plaisir... Enfin, en tout cas, nous, c'était d'être ensemble et de déposer quelque chose, je pense. Finalement, le plus important, c'est pour... Pas le résultat, même si hétérox, on est très content. C'est vraiment le chemin parcouru, en fait, qui est vraiment le plus important, quoi, je vois. Et c'est vrai que ma relation avec Maxime me le montre aussi, et me renvoie ça pour moi, de me dire, mais en fait, le plus important, c'est le chemin parcouru, en fait, avec toi-même et avec les projets que t'as montés, quoi. Et avec ce que ça t'a donné à vivre, quoi. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me reste beaucoup dans cette relation, voilà.
Le plaisir pris à la réalisation de ce film est visible et surtout contagieux. Présenté et accompagné d'une conférence-spectacle sur les origines de l'hétérosexualité lors de la dernière projection à l'univers et ponctué d'interludes musicaux, laissant entrevoir, en plus de son jeu d'acteur, les capacités vocales et lyriques de Mathieu Gédrazac, la création cinématographique devient non seulement partage, mais également échange. Les rires et réactions du public faisant presque partie de l'événement. Retour avec Maxime Pourbet, Marianne Berthaud et Mathieu Gédrazac sur ce rapport au public et à l'importance ou non de ces réactions.
J'ai toujours très angoissé quand je projette un film. Alors, j'ai pas du tout peur, par exemple, quand je monte sur scène pour réciter de longs textes, j'ai pas du tout peur, mais quand mon film se projette et voilà, le film il est fini, il peut rien se passer de mal, mais j'ai toujours très peur qu'il y a quelque chose qui aille pas dans la projection, quelque chose sur lequel j'aurais absolument pas prise, et donc bref, c'est souvent, ça met vraiment dans l'angoisse de projeter un de mes films. Mon but c'est vraiment de faire rire les gens, que ça les touche, et donc forcément, quand ils rigolent, pour moi, ça veut dire que le pari est remporté, quoi.
Bah, moi je vois que ça réagissait beaucoup, moi, avec ma paranoïa qui existe, des fois je pense que c'est des gens qui se foutent de la gueule. professionnel, et c'est tant mieux parce qu'on s'expose aussi pour ça dans le cadre avec Heterox. Mais c'est toujours très étrange parce que moi je m'étais posé la question, c'est à des cathos intégristes qui viennent dans la salle, peut-être qu'ils prennent ça premier degré, enfin c'est quand même une zone floue, et y a un moment où, enfin moi quand je fais les choses, j'y pense même pas, ça réagit tant mieux, et tant mieux parce que si ça réagissait pas, je crois que je serais un peu inquiet par rapport à la proposition avec Maxime, mais pourquoi pas.
Moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées par rapport à la musique, par rapport à des projets antérieurs, en fait. Est-ce que, quand je fais quelque chose devant des gens, est-ce que j'ai besoin d'un retour ou pas? Parce que ça m'est arrivé d'être face à des publics silencieux. Et en fait, je me suis aperçue que moi, en tant que public, ça m'arrivait d'avoir une vraie jubilation interne, mais de ne pas le manifester simplement parce que je suis fatiguée, mais que je suis vraiment, ça me plaît en fait, mais que j'ai pas l'énergie suffisante finalement pour rire fort ou pour applaudir fort ou réagir. Donc maintenant, j'ai essayé d'accepter ça et d'avoir de déconstruire la mégalomanie, quoi, d'être dans une vraie humilité, de me dire je dépose la chose et que en face de moi. En fait, avant d'arriver sur scène, quel que soit le contexte, même si c'est un truc tout pourri ou un truc tout canon, parce que j'ai fait un peu les deux et le milieu, de me dire que je dois être aussi authentique, en fait.
Ça a été un peu libérateur de faire ce film, ça fait du bien.
Oui, ça a été très libérateur. C'est un truc qui est un petit peu une tarte à la crème, quoi. C'est un peu, voilà, quand on met une tarte à la crème sur la tronche de BHL, par exemple, ça fait du bien. Bon, en même temps, ça ne blesse personne, personne n'est mort. Mais en même temps, oui, pour moi, utiliser le cinéma pour pouvoir exprimer mes idées, oui, c'est, enfin, pour moi, c'est, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, quoi. Je ne peux pas faire cinéma sans dire ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai besoin d'espace d'expression. Voilà.
Si vous avez raté Heterox dernièrement, pas de panique. Comme l'a rappelé Maxime Pourbet dans le reportage, des DVD sont disponibles, ce qui permet non seulement de voir et revoir le film, mais aussi de participer à son financement. Suivez désormais attentivement la programmation de l'univers sur le site l'univers.org, la quatrième projection d'Hétérox n'étant sûrement pas la dernière.
Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée.
Voilà, donc Heterox, un court-métrage, donc comme on l'entendait dans le reportage, réalisé par Maxime Pourbet, mais co-écrit par Maxime Pourbet et Marianne Berthaud, et avec, entre autres, dans le jeu d'acteurs qu'on a entendu dans le reportage, Mathieu Gédrazac et Marianne Berthaud également.
Yep. Et d'ailleurs, ça me faisait penser ce truc un peu de cacher tout pitou. Il y a Aids qui avait lancé d'ailleurs au même moment une campagne en fait contre l'homophobie qui s'appelle, donc en fait ils ont repris une sorte de boîte de médicaments et avec un truc qui s'appelait homophobiol pour soigner de l'homophobie, et du genre ils se disaient qu'on pourrait le donner à plein de personnes qu'on connaît homophobes et que ça pourrait être trop cool. Et dedans il y a une super petite notice assez sympa, etc., donc c'est assez chouette. Et c'est vrai que c'est un peu ce truc, c'est marrant, on en parlait en off en se disant non mais ouais, c'est ce que tu disais Annaëlle, genre non mais c'est fou parce que là on parle de médicaments, de médicalisés, et voilà. Et c'est vrai qu'on oublie que en tout cas par l'OMS, l'homosexualité est considérée jusque, je crois que c'est normalement je sais que c'est la date, c'est le 17 mai parce qu'il y a le projet 17 mai et tout, puis il y a un truc de fou autour de tout ça. Je crois que c'est 91, jusqu'au 17 mai 91, c'est considéré comme une maladie mentale par l'OMS quand même. Donc c'est énorme, et que si j'ai bien compté, ça fait 25 ans à peu près seulement que c'est plus le cas, quoi, et ça craint.
Ouais, ça craint. Il est presque l'heure, donc on va se dire au revoir.
Au revoir.
Et on va se dire, on va se souhaiter des bonnes vacances, en tout cas des bons mois d'été.
Oui.
Tout mince, tout beau dans le maillot de bain sur la plage.
Non, moi je vais y aller avec mes gros bourrelets, trop bien.
Les poils et tout va
ouais.
Bien. Moi j'irai avec mes poils.
Ouais. Oh,
chacun son truc.
Moi aussi.
et donc il y aura pas de Genrage en août, hein, parce qu'on est trop occupées toutes. Et on reprend en septembre, a priori. Alors, quelle équipe, quelle fréquence, quelle formule, ce sera la surprise. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.
Cielo, vamos.
Vamos.